franceinter.fr.
Booster les traitements contre le cancer grâce à des cocktails de bactéries, ce sera peut-être le cas bientôt après la publication d'une équipe française qui montre que certaines bactéries de notre tube digestif sont déterminantes dans la réussite des traitements par immunothérapie. Une première démonstration chez l'homme, des espoirs importants dont on discute avec notre invité Axel.
Oui Mathieu, nous sommes au téléphone avec Laurent Zitvogel, bonjour.
Bonjour Axel,
vous êtes
bonjour tout le monde.
Oui,
bonjour,
vous êtes oncologue et directrice d'une unité de recherche à l'INSERM, à l'Institut Gustave Roussy, à Villejuif. Vous êtes également premier auteur de ces travaux, publiés dans la revue Science. Vous apportez la preuve que certaines bactéries sont déterminantes quand on cherche à traiter le cancer. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste alors ?
Il y a environ 6 ans, nous avions démontré que les antibiotiques chez la souris bloquaient les effets des chimiothérapies et puis 2 ans plus tard bloquaient également les effets des immunothérapies contre le cancer. Donc nous avons été stimulés pour aller plus loin et ensuite nous avons démontré que les 2 kg de bactéries que nous portons dans notre intestin sont en fait des régulateurs de notre tonus immunitaire périphérique et par conséquent de notre force pour lutter contre les cancers.
Donc les antibiotiques tuent les bactéries alors qu'on en a besoin.
Voilà, les antibiotiques, par certains phénomènes de ciblage contre certains types de bactéries, peuvent éliminer l'équilibre de notre écosystème intestinal et par conséquent déséquilibrer de façon dramatique l'immunité locale de l'intestin et par voie de conséquence l'immunité systémique et l'immunité antitumorale.
Laurence Zitvogel, vous pouvez nous rappeler brièvement le principe de l'immunothérapie contre le cancer ? Qu'est-ce que c'est exactement que cette stratégie ?
L'immunothérapie contre le cancer vise à stimuler le système immunitaire, booster des lymphocytes tueurs qui vont donc reconnaître les cellules transformées, les cellules cancéreuses, et progressivement les éliminer. Mobiliser le système immunitaire est un complément indispensable aux chimiothérapies, à la radiothérapie et est actuellement en vogue avec l'expansion et l'explosion même des anticorps monoclonaux qui visent à bloquer les inhibiteurs du système immunitaire. Les anticorps anti-CTLA4 et les anticorps anti-PD1.
Oh, on vous a presque suivi. Hein,
Mais vu qu'on est dans les noms, est-ce que vous avez identifié ces bactéries bienfaitrices ? Vous êtes capable de les nommer aussi ou de nous raconter un petit peu leur histoire dans notre tube digestif ?
Alors, les bactéries que nous avons identifiées, qui sont intéressantes pour stimuler le système immunitaire, s'appellent, alors attention, vous allez rire, Akkermansia muciniphila et Enterococcus cirrhé, en sachant que bien d'autres existent comme des ruminococcacées et des alistipèses, donc on est très vite perdu. Ce petit écosystème donc est connu parce que il est indispensable à l'équilibre de nos cellules épithéliales de notre intestin. Notre intestin est composé de cryptes et de villosités. Ce sont des cellules qui nécessitent un dialogue permanent avec nos petites bêtes qui sont nos bactéries fétiches comme ces bactéries Akkermansia muciniphila.
Comment est-ce que vous êtes parvenu à les trouver, à les débusquer précisément ces bactéries ?
Alors, de nouvelles techniques sont apparues, très utiles, notamment la génétique. La génétique complète le séquençage des cellules des patients, qu'on appelle la métagénomique. Il est actuellement possible de définir la composition précise de toutes les espèces bactériennes, les parasites, les virus, les phages qui composent donc notre écosystème. Et nous avons repéré que la composition de la flore intestinale des patients répondeurs au traitement était différente de la composition des patients non répondeurs, nous donnant ainsi un indice prédictif de réponse au traitement.
Mais c'était quoi la différence exactement alors ?
Alors, dans la composition des Akkermansia, les Akkermansia muciniphila, notamment, sont présentes chez les répondeurs et beaucoup moins présentes chez les non-répondeurs.
Ceux pour qui le traitement était efficace, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui.
Est-ce que ça va avoir des implications cliniques, votre découverte ? Est-ce qu'on va changer la manière de traiter les patients, notamment avec les antibiotiques ?
Alors, il y a plusieurs façons de répondre et bon, comme tous les cliniciens sont effectivement au courant que les antibiotiques de façon prophylactique, c'est-à-dire préventive, sont pas forcément systématiquement indispensables dans le contexte d'une immunothérapie. Donc on va essayer de limiter ce type d'indication puisqu'on a montré que l'antibiothérapie bloquait l'efficacité de l'immunothérapie. Maintenant, pour toutes les autres indications qui sont importantes pour la survie d'un patient qui a une infection, il n'est pas question d'arrêter les antibiotiques. Et dans ce contexte-là, on va préconiser d'attendre, de repousser de 6 semaines le début de l'immunothérapie.
Est-ce que d'une autre façon, on peut préparer le microbiote d'un patient avant son traitement ?
On aimerait, et c'est l'objectif des prochaines années, d'être capable de restaurer l'écosystème de patients qui ont donc une flore intestinale déviée. Nous pourrons donc diagnostiquer dans un avenir proche la dysbiose, ça porte ce petit nom-là, la dysbiose intestinale. Et lorsque l'on aura diagnostiqué une dysbiose intestinale chez un patient, on aura envie de lui prescrire un probiotique anti-cancer.
Comment on procède justement concrètement pour restaurer le microbiote ?
Actuellement, il existe des pilules, enfin des capsules de bactéries lyophilisées. Et l'idée, ce serait de rebondir sur cette technologie et d'encapsuler les bactéries d'intérêt comme Akkermansia muciniphila ou les Alistipes, les Ruminococcacées et toutes ces bactéries que nous avons récemment identifiées.
Administrer des probiotiques à quelqu'un qui est atteint du cancer ou qui est malade, c'est pas un problème ?
Non, ce n'est pas un problème, mais il faut peser les indications et effectivement, probablement, faire un intervalle thérapeutique entre l'arrêt de l'antibiotique et le démarrage de l'immunothérapie ou de la chimiothérapie immunogène.
Finalement, Laurence Zitvogel, on a encore un nouvel éclairage sur les vertus du microbiote intestinal. Là, hein. On n'en finit pas d'avancer. Hein.
Oui, après les applications dans l'obésité, dans la maladie de Crohn, dans la cirrhose et dans l'autisme, dans la dépression, on ajoute les thérapies du cancer.
Ouais, donc ça n'est pas rien, effectivement, et on la doit à votre équipe et donc à cette publication qui vient de paraître et que vous avez signée pour Science. Merci beaucoup Laurence Zitvogel. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, dans le domaine de l'oncologie, toujours le recul de la mortalité par cancer aux États-Unis. Selon une étude récente de l'American Cancer Society, le taux de mortalité lié au cancer a baissé de 26% entre 2011 et 2015. Cette diminution importante s'exprime en particulier dans 4 types de cancers, celui du poumon, de la prostate, du sein et du côlon, dont le nombre de décès associés a chuté de 52% en 40 ans. Les spécialistes observent également une légère diminution des disparités selon la population et le sexe. Néanmoins, le taux de mortalité liée au cancer restait en 2015 plus élevée de 14% chez les populations noires que chez les blancs, tout âge confondu. Un mini-satellite français à l'affût d'une maxi-planète, imaginée en 2014 par l'ESIA et construit en un temps record. Pixat, c'est son nom, est un nano-satellite de 30 cm de haut pour 10 cm de large, destiné à observer l'étoile Beta Pictoris et son environnement. Âgée de 23 millions d'années, cette étoile est entourée d'un vaste disque de débris, de poussière et de gaz. Il s'agit, d'après les experts, d'un système planétaire en formation. La mission Pixat va se concentrer sur l'exoplanète Beta Pictoris B qui tourne autour de l'étoile et qui est 7 à 15 fois plus massive que Jupiter. Cette planète offre une occasion unique d'observer une supergéante gazeuse peu de temps après sa formation. Et puis le plus vieux papillon jamais découvert, déterré en Allemagne, la série d'Eka et d'Aile fossilisées date de 200 millions d'années et apporte d'importantes informations sur l'évolution des lépidoptères. L'analyse des échantillons indique que les papillons possédaient déjà une trompe à cette époque. Or, les experts estiment l'apparition des fleurs chez les plantes à 145 millions d'années. Dans l'étude publiée dans Science Advances, les auteurs expliquent que les papillons auraient développé cet appendice en réponse au climat chaud et sec de la fin du Trias. Il leur permettait de s'hydrater à l'aide de gouttelettes sécrétées par les plantes dominantes avant donc l'apparition des fleurs.